Radio Foot International. CAN Total. Égypte 2019. Annie Gasnier.
Bonsoir et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International, notre rendez-vous nocturne, comme vous en avez pris désormais l'habitude, puisque nous sommes là à la sortie des matchs importants. Et nous sommes là ce soir, nous sommes là aussi en images avec Facebook, Facebook Live, et avec nos invités que je vous présente tout de suite, puisque comme vous les voyez, il faut que je dise leur nom immédiatement. Patrick Juillard, bonsoir.
Bonsoir Annie, bonsoir à tous.
Patrick Juillard du site Foot 365 Afrique.
Page Afrique.
Voilà. Page Afrique, qui envahit tout en ce moment, n'est-ce pas?
Absolument.
Et puis Nabil Djellit.
Bonjour Annie, bonsoir Annie, bonsoir à tous.
Bonsoir Nabil, Nabil aussi de France Football, mais il est à nous aussi Nabil. On parle de la CAN, donc avec eh bien, les Lions indomptables, vainqueurs d'entrée dans cette compétition. Les champions sortants ont facilement battu la Guinée-Bissau par 2-0. Buteurs Yaya Banana et Stéphane Baoken, un bon début sans stress pour le Cameroun. Les Black Stars ce soir face aux écureuils du Bénin. Quelles sont les chances de cette équipe où les frères Ayou et l'incontournable Asamoah Gyan figurent encore sur la liste de Kwesi Appiah? L'une de ces étoiles, le milieu de terrain de l'Inter Milan, Kwadwo Asamoah, nous donnera son avis. Du monde, les Italiennes en quart de finale. Elles ont facilement battu des Chinoises décevantes sur cette compétition, battues par le score de 2-0. Et elles sauront ce soir qui sera leur adversaire, qui des Pays-Bas ou du Japon. Les Lions indomptables du Cameroun, éliminés de cette Coupe du Monde et peut-être bientôt punis par les instances du football africain ou peut-être international. Leur comportement face à l'Angleterre fait beaucoup parler, toujours parler, et les expose donc à des sanctions, justifiées ou pas. Une fois encore, en tout cas, la VAR est au cœur de la polémique. Radio Foot, c'est parti.
Nouvelle opportunité là, ce serait pas mal pour les Camerounais de marquer à ce moment du match. Toké Kambi au deuxième poteau, la tête.
Et le voilà
le but. Le voilà le but, il est signé. Yaya Banana d'une tête rageuse au second poteau, tête piquée qui est venue tromper enfin ce gardien de la Guinée-Bissau, Jonas Mendes.
Le ballon qui a navigué d'une aile à l'autre, mais toujours dans les pieds camerounais avec Oyongo, le centre et le deuxième but. Le drapeau ne s'est pas levé, il vient d'entrer en jeu, Stéphane Baoken,
effectivement.
Baoken, il est pour lui, 2-0, la Guinée-Bissau qui craque.
Le Cameroun au rendez-vous de sa CAN. Les champions sortants, vous vous en souvenez, ils avaient été sacrés du côté de Libreville en 2017. Eh bien, ils sont bien entrés dans cette 32e édition de la CAN qui, on l'avait rappelé tout à l'heure, dans la première édition, aurait dû se dérouler au Cameroun. Ça se déroule en Égypte et ce soir, eh bien, ils ont battu la Guinée-Bissau. Vous avez entendu le résumé de ce match qui vous a été assuré tout à l'heure sur l'antenne par Cédric de Oliveira et Frédéric Suto. Et on rejoint tout de suite Cédric de Oliveira. Bonsoir Cédric.
Bonsoir Annie, bonsoir à tous.
Alors Cédric, vous qui assistiez au match, nos spectateurs de l'émission peuvent vous voir grâce à la magie de la technique. Vous êtes avec nous dans le studio. Cédric, racontez-nous un peu cette entrée en compétition des Camerounais.
Ben, entrée en matière, on l'a dit tout à l'heure, entrée en matière, moi j'ai trouvé plutôt probante. Alors ça a été un petit peu compliqué lors des premières minutes, on a senti que les Camerounais étaient timorés, ils n'arrivaient pas forcément à trouver l'ouverture parmi les Bissau-Guinéens, mais ils ont trouvé assez vite comment le contourner finalement ce bloc en utilisant beaucoup le jeu long. Ça a marché avec Toké Kambi, avec Bassogog, qui ont eu plusieurs opportunités, mais voilà, ils ont été très imprécis pendant toute la première période. Ils ont été aussi imprécis Pendant le premier quart d'heure, voilà, ça a duré une heure cette période, et puis ensuite, ils ont profité du coup de mou physique des Bissau-Guinéens pour marquer grâce à Yaya Banana et Stéphane Bauken, deux buts en 3 minutes au 64e et 67e. Finalement au meilleur moment hein, pour le Cameroun ça a pu valider cette supériorité physique, technique, tactique à tous les niveaux. C'est plutôt réussi comme entrée en matière du Cameroun, alors qu'on se posait des questions suite à cette préparation qui a été un petit peu compliquée. On l'a redit sur l'antenne, il y a eu cette grève pour le non-paiement des primes, ils sont arrivés avec du retard, il y a eu aussi ce forfait de Joël Tagu hier, ça a perturbé le groupe, mais voilà, on a senti de la cohésion. Clarence Seedorf il l'a dit ces derniers jours, il y avait de la cohésion, il fallait qu'elle se retrouve sur le terrain. On l'a vu ce soir face à une équipe de Guinée-Bissau qui était clairement en dessous.
Nabil Djellit, vous aussi, vous avez vu de la cohésion de la part des Camerounais dans ce match ?
Oui, si je peux me permettre, le Cameroun chasse la déprime sur ce premier match. Pour rebondir un peu sur l'actualité récente et presque systémique des Lions indomptables.
Oui, avant c'est peut-être pour ça que finalement ils rebondissent bien.
Oui, on va dire qu'ils ont. Vous savez, parfois dans le football, on dit vous avez la culture du maintien, vous avez la culture de la gagne. Bah, le Cameroun, et j'espère qu'un jour ils en sortiront. C'est vrai qu'ils ont la culture des préparations parfois un peu houleuses, mais qui ne les empêche pas de performer parce qu'ils ont cet ADN et ils ont effectivement cet esprit de corps qu'on a vu encore une fois. C'était pas un match facile face à une équipe de Guinée-Bissau qui avait quand même quelques arguments. Je pense pas que c'était l'équipe la plus faible que j'ai vue jusqu'à présent. Effectivement, c'était le petit poussé par rapport au Cameroun qui est quand même.
Oui,
une
mais
équipe,
ils en sont à leur deuxième canne.
Voilà, je trouve qu'il y avait quelques.
Il y a des bonnes choses.
Et puis défensivement, ils faisaient que défendre, mais au moins ils le faisaient plutôt bien.
Ils le faisaient plutôt bien. Et finalement, c'est au moment où finalement, j'ose dire, la Guinée-Bissau sortait un peu de la tanière que le Cameroun a piqué avec cette situation sur coup de pied arrêté, parce que c'est aussi une manière, face à des équipes regroupées et en bloc, c'est aussi une manière parfois de faire sauter le verrou. À la Yaya Banana qui a été absolument fantastique au deuxième poteau, même s'il a été oublié, mais cette tête, il fallait quand même la mettre.
Patrick, Yaya Banana, c'est le premier buteur hein, de ce match. Il joue en Grèce et vous aviez retracé son histoire, parlé même.
Absolument,
hein, pour
je
son
l'avais interviewé il y a des années pour faire un portrait. Et c'est un joueur qui a une carrière très longue. Déjà, il a 28 ans. Il a commencé sa carrière à la fin des années 2000. Il avait joué la CAN Junior en 2009 et c'était à l'époque le seul joueur de D2 camerounaise qui était dans cette équipe camerounaise qui était une très bonne équipe à l'époque. Et il avait été dans la foulée transféré à l'Espérance de Tunis où il a gagné la Ligue des Champions africaines. Il avait été élu en 2011 dans l'équipe type de la Ligue des Champions africaines par la CAF. Donc ses prestations avaient été remarquées et dans la foulée, il avait signé à Sochaux en France. Et ensuite, ça a pas trop marché. Il est parti en Suisse, puis en Grèce. Et depuis 4-5 ans, il réalise des bonnes saisons régulières dans des clubs de milieu de tableau en Grèce. Mais quand il était jeune, on lui voyait une carrière beaucoup plus huppée que celle qu'il a fait. Mais c'est quand même un défenseur solide qui a un physique vraiment de
c'est
colosse.
Impressionnant, hein, impressionnant.
Et en plus, c'est pas un physique de rugbyman très large d'épaule. Il est quand même assez fin, mais il est vraiment dur sur l'homme et un jeu de tête redoutable. Donc, c'est bien de le voir revenir à un très bon niveau parce que il s'était parfois un petit peu perdu, quoi. Sa carrière en équipe nationale est faite de longues éclipses et de retours et d'éclipses. Donc, c'est une drôle de trajectoire, mais moi, c'est un joueur que j'ai toujours trouvé bon défensivement.
Cédric De Oliveira, on a vu Choupo-Moting, Maxime Choupo-Moting sortir du terrain à un moment plus ou moins blessé. Il était sur la civière. Ensuite, il est revenu dans le jeu, finalement, pour pas terminer le match. Pas d'inquiétude autour du capitaine des Lions Indomptables.
Bah écoutez, faudra attendre plusieurs heures en tout cas de voir un petit peu ce que vont nous dire les médecins de la sélection. Effectivement, il est sorti sur civière, mais après on l'a vu revenir sur la pelouse assez rapidement et il a plutôt gambadé. J'ai l'impression que c'était plutôt un choix tactique de la part de Clarence Seedorf. Peut-être qu'il a voulu le préserver aussi parce qu'il y avait 2-0 et que. Et qu'il n'y avait pas forcément d'inquiétude sur le résultat de cette rencontre. J'ai pas l'impression que ce soit très grave. Après, il faudra attendre effectivement de voir, par exemple, demain, est-ce qu'il sera à l'entraînement. Voilà, mais je pense pas que ce soit très grave.
Cédric, avant de vous abandonner quelques instants, puisqu'on vous retrouvera tout à l'heure, toujours avec Frédéric Suto, pour commenter l'autre match qui se déroulera sur la même pelouse, à savoir Ghana-Bénin. Racontez-nous un peu, Ismaïlia, où vous vous trouvez, c'est entre Mer Rouge et Mer Méditerranée, au bord du canal.
Oui, Ismaïlia, c'est à 100 km au nord de Suez et c'est à peu près à 150 km du Caire. Alors c'est pas du tout la même ambiance qu'au Caire, pour avoir vécu donc le début de la CAN dans la capitale égyptienne, où avec tout ce que ça implique, c'est une mégalopole, il y a 25 millions d'habitants, c'est assez étouffant comme ambiance. Là où vous êtes à Ismaïlia, c'est une sorte de station balnéaire, 750 000 habitants, ville finalement à taille plus humaine. Et le stade d'ailleurs est un petit peu à l'image de cette ville, plutôt aéré. Alors même là, s'il n'est pas rempli, en tout cas, un joli stade et une ambiance plutôt agréable, parce qu'effectivement, on perd aussi quelques degrés par rapport au Caire et ça ne fait pas de mal. Par exemple, là, il y a une petite brise qui n'est pas désagréable en cette fin de journée, puisque c'est la canicule au Caire depuis qu'on est arrivé.
Oui, c'est ce que nous racontait aussi Eric Mamrut hier de Suez, donc à une centaine de kilomètres plus au sud. Effectivement, un peu plus d'air à respirer. Merci beaucoup, Cédric. On vous retrouvera donc tout à l'heure d'ici une trentaine de minutes pour ce match en direct sur l'antenne. Merci beaucoup. Et je rappelle à ceux qui vous voyaient tout à l'heure, eh bien que on est en Facebook Live et donc les spectateurs vous voyez aussi assis dans le stade. On continue et on va évoquer une des deux équipes qui va rentrer tout à l'heure sur le terrain, celle des Black Stars. Ils chantent à l'entraînement, les Ghanéens, le Ghana, quatrième de la dernière CAN, après avoir été assez souvent finaliste ou demi-finaliste depuis 2008. Voilà donc les Black Stars, respectés pour leur palmarès, qui débarquent dans la compétition. L'une de ces Black Stars d'ailleurs joue à l'Inter, il s'agit du milieu de terrain Kwadwo Asamoah. Matteo Tsofi l'a rencontré et il lui a expliqué que son groupe arrive bien préparé au climat.
Cette compétition se joue en Afrique, un continent où il fait très chaud. Les joueurs qui disputent un championnat à l'étranger vont souffrir de ce facteur. Il faut donc faire en sorte que le corps s'habitue à ce changement climatique. La chaleur a toujours rendu ce trophée encore plus dur. Nous sommes allés à Dubaï pour nous y préparer. On a choisi ce pays parce que le climat y est semblable à celui de l'Égypte. Les attentes, sinon, sont très élevées, comme d'habitude, car pour notre pays, la CAN est toujours un rendez-vous très important. On peut être considéré comme l'un des quatre grands pays du football africain. Dans les dernières éditions, on a toujours réussi à rentrer au moins dans le dernier carré. On espère aller en Égypte pour gagner cette fois la compétition, car ça fait trop d'années que la victoire nous échappe de peu. Notre équipe dispose d'un collectif de joueurs très forts et capables de remporter le tournoi. On sait bien que ce ne sera pas facile, car la lutte pour décrocher la victoire finale compte pas mal d'autres prétendants.
Le Ghana, donc quadruple vainqueur de la CAN, mais qui n'inscrit plus son nom au palmarès depuis 37 ans. Alors évidemment, ils aimeraient renverser la situation, vous l'avez entendu Asamoah le dire, eux qui pratiquement toujours sur le podium ou tout près du podium depuis 2008. Quelles sont les chances de cette équipe, Patrick Juillard?
J'ai un peu peur que l'histoire ne repasse pas les plats et que le moment de gloire du Ghana soit passé. Là, je trouve que
on se demandait si on faisait du neuf avec du vieux pour cette équipe.
C'est une équipe qui a pour atout d'être très expérimentée, d'avoir des joueurs qui ont tous un gros vécu en Coupe d'Afrique, même s'il y a quelques jeunes, comme Aguiépong notamment, qui est un joueur de Manchester City, enfin de la réserve, qui a été prêté en Écosse, mais globalement c'est une équipe expérimentée, de vieux briscards, de joueurs qui ont des vieux routiers, mais peu sont en grande forme, peu jouent beaucoup dans leur club. Le seul joueur vraiment niveau Ligue des Champions de l'équipe, c'est Thomas Partey de l'Atlético Madrid, qui lui s'est imposé à l'Atlético et qui est vraiment la locomotive de l'équipe, mais il n'y a pas beaucoup de wagons derrière. Les Ghanéens ont eu une phase de qualification difficile. Bon, le groupe a été tronqué par la disqualification de la Sierra Leone. Ils sont passés avec le Kenya, mais ils ont perdu au Kenya. Alors que le Kenya n'est pas une équipe exceptionnelle. Normalement, le Ghana ne perd jamais contre le Kenya. Et je suis pas très optimiste pour eux, moi.
Ce qu'on peut voir, c'est que depuis plusieurs CAN, on a toujours ce duo des frères Ayou,
oui.
Dont maintenant André Ayou est le capitaine, et André le grand frère, donc capitaine. Est-ce que c'est toujours le moteur malgré tout des Black Stars, Nabil?
Non, je trouve que le comme on dit en basket, le momentum est un peu passé. On a ce sentiment-là. Est-ce que c'est est-ce qu'on va aller vers une phase de déclin? On va rapidement être renseigné. Déjà face au Bénin, pour moi, c'est un vrai test parce que on en parlera peut-être tout à l'heure, mais moi je sens que le Bénin va poser de sérieux problèmes à cette équipe ghanéenne. Le Bénin qu'on a vu avec Patrick
Le Bénin Orde, qui avait posé des problèmes à l'Algérie.
Ouais, qu'on a vu lors des éliminatoires de la CAN. Alors c'est dommage que Stéphane Cessignon soit pas là, mais en tout cas moi je trouve
avec
que
avec un super entraîneur qui est Michel Dussuyer, qui travaille auprès des équipes dans le pays,
on connaît sa méthode, des joueurs binationaux aussi.
Je peux dire que ce soir va falloir arriver à contourner le bloc des écuries, mais ça c'est une autre histoire. Je trouve que le Ghana c'est une équipe qui est rentrée dans le rang en termes d'individualité. Et comme
exactement.
Le Nigeria, une équipe capable de laisser sur le banc des joueurs dans les plus grands clubs de la planète. Aujourd'hui, même sur le 11 rentrant, même si ça garantit pas tout dans le football, et on sait très bien que par exemple le Cameroun, lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, n'a pas gagné avec des joueurs de niveau Ligue des Champions. Mais aujourd'hui, concrètement, la star du Kenya, la star du Ghana, c'est plus un artiste, c'est Thomas Partey, c'est une courroie de transmission fantastique. Mais par le passé, ça respirait le ballon de manière incroyable.
On avait des Stéphane Appia, des Souleymane Tari, des Essiens, des Kevin Prince Boateng.
T'avais des frissons au nom des joueurs. Aujourd'hui, très sincèrement, quelle est la différence entre le Ghana et une équipe comme je sais pas, à un moment le Burkina Faso avait des individualités qui étaient du niveau du Ghana, même si le Burkina n'est pas là aujourd'hui en compétition. Mais c'est plus le Brésil de l'Afrique, si je puis me permettre, Annie. C'est plus comme le Nigeria avec les Kanu, les Okocha et tout ça. Donc c'est une équipe qui est pour moi rentrée dans le rang. Elle a tourné autour du pot. Elle a pas validé. Franchement, c'est un outsider, et pour moi, ça serait une surprise.
Il reste quand même un joueur assez intéressant et imprévisible dans cette équipe, c'est Christian Atsu, qui avait été élu meilleur joueur de la CAN 2015. Cette année-là, le Ghana avait perdu en finale au tir au but, cette fameuse séance interminable avec Copa Barry, qui avait réalisé des exploits dans les buts ivoiriens. Mais ce joueur, Christian Atsu, ça peut être le facteur X de l'équipe, un peu comme Bassogog pour le Cameroun, un joueur capable de dribbler, d'éliminer, de s'insinuer dans la défense adverse, capable de frapper de loin, et qui joue à Newcastle en première ligue, mais qui est un joueur qui est meilleur en équipe nationale qu'en club, un peu comme Bansé avec le Burkina, des joueurs qui peuvent se transcender à la CAN. Donc lui, peut-être qu'il peut représenter un petit plus, mais je partage l'avis de Nabil. Pour moi, le Ghana a régressé un petit peu, et ça se voit aussi chez les équipes de jeunes où ils étaient très forts. Et aujourd'hui, c'est plutôt, par exemple, le Mali qui a vraiment pris la tête des équipes africaines chez les U17 ou les U20. Le Ghana est un peu en retrait, quoi.
Asamoah Gyan, dans cette équipe, il est toujours là. Enfin. On se souvient du pseudo psychodrame juste avant la CAN, où parce qu'on lui enlève le brassard de capitaine, il dit qu'il ne veut plus venir. Les plus hautes instances du pays
Nana Akufo l'appelle,
interviennent pour l'obliger. Est-ce que c'est une bonne chose de l'obliger à venir ou à être dans le groupe, peut-être un peu comme un grand frère?
Moi je le vois pas comme un facteur X, je le vois comme un facteur problème, parce que déjà là il est pas aligné. Il n'est pas dans le 11 titulaire. Si ça tourne, très sincèrement, je ne vis pas au sein de cette sélection ghanéenne, si ça tourne au vinaigre, je vous annonce que dans le vestiaire, ou du moins dans l'ambiance de l'équipe, je ne suis pas sûr que ça soit un leader positif, parce qu'il est quand même auto-centré. Quand vous avez une réaction comme celle qu'il a eue, c'est-à-dire qu'il n'accepte pas finalement qu'il y ait des héritiers, qu'il y ait une transition et qu'il remette en cause sa participation, moi je suis désolé, il ne fait pas passer le collectif avant sa personne. Donc je suis plutôt inquiet de sa présence sur le banc.
Patrick?
Non, je suis d'accord avec Nabil. Après, c'est quand même...
Il a un brassard d'honneur, désormais.
Voilà,
c'est un
brassard d'honneur. C'est quand même... C'est un peu l'équivalent, si vous voulez, de Adebayor au Togo. C'est-à-dire que c'est un joueur qui reste, qu'on le veuille ou non...
Ouais, mais Adebayor, on l'a vu même dans les éliminatoires, là encore récemment, ils perdent justement face aux écureuils, mais il était encore très très
Asamoah Gyan est encore pas mal, il continue de marquer des buts en Turquie, comme Adebayor d'ailleurs, il a encore du temps de jeu à Kayserispor. C'est pas un joueur fini maintenant, c'est vrai que c'est un joueur, ses meilleures années sont derrière lui, il a choisi à une époque de sa carrière de partir dans le golfe persique, aux Émirats. à Al Ain, où il était encore dans le... C'est un club qui jouait quand même la Ligue des Champions d'Asie, la finale tous les ans, mais c'était... Il était à Sunderland et à Rennes avant. Il a baissé d'un cran quand il est parti là-bas, mais... En équipe nationale, il a quelque chose, donc je serais quand même un peu plus nuancé que Nabil. Mais c'est vrai que c'est un leader qui prend toute la lumière, quoi. Donc après,
oui,
c'est aussi,
une belle histoire
c'est
dans
aussi
le foot africain,
aux joueurs
mais...
comme Partey ou aux frères Ayou de s'imposer comme des leaders
et de prendre le relais.
Et aussi, voilà, c'est aussi à eux de l'éclipser. Et pour l'instant, ils l'ont pas encore fait, même par les résultats. Donc c'est un peu gênant.
Alors Kwadwo Asamoah, on en parlait, et il n'est pas dans le 11 de départ ce soir.
Bon
il n'est
joueur.
Pas dans le 11 type, oui. Mais justement, il l'a expliqué à Matteo Tchoffi. Il est prêt finalement, ce joueur, à faire ce qu'on lui dit de faire et ce que lui dit son sélectionneur.
En 2017, j'avais refusé la convocation pour une seule raison. Cela faisait trop peu de temps que j'avais repris après une grave blessure à la jambe. Je n'étais pas à 100% et c'était donc trop risqué. De plus, la CAN est un tournoi très physique par rapport aux compétitions européennes où c'est une question plus tactique. Pour un rendez-vous de ce genre, il faut être vraiment en pleine forme et en ce moment, je le suis. Je suis prêt à accepter les consignes de l'entraîneur. Souvent, avec le Ghana, je joue au milieu du terrain et par exemple, à la dernière Coupe du Monde, j'ai reculé en défense. Cela dit, ce sera le coach qui choisira mon rôle sur le terrain, car il connaît ma valeur. Je suis prêt à toute décision, défenseur ou milieu de terrain. C'est à lui de faire le choix pour faire en sorte que je puisse adapter mon jeu à celui des autres coéquipiers qui composent l'équipe.
Il parle italien, ce joueur Kwadwo Asamoah.
Ça fait au moins 10 ans qu'il joue en Italie. Il a joué à l'Udinese, il a joué à la Juve.
C'est pour ça Matteo a préféré.
Il joue à l'Inter et il parle très bien. Il s'est complètement intégré à l'Italie. C'est un joueur intéressant, effectivement, par sa polyvalence. Il a commencé sa carrière plutôt comme ailier ou milieu offensif excentré. Il a peu à peu reculé quand il était à la Juve. Il jouait piston gauche ou droit dans une défense à 5 joueurs. Et en équipe du Ghana, il joue milieu de terrain relayeur. Il peut vraiment jouer à 4 ou 5 postes. C'est un vrai couteau suisse. Et là, je m'étonne un peu de pas le voir. Alors, c'est sans doute parce qu'il est revenu très récemment dans le groupe et qu'il n'a pas fait beaucoup de matchs éliminatoires. Donc, il y a aussi pour le sélectionneur un peu de politique. Il faut aussi donner une prime à ceux qui ont qualifié l'équipe.
Ouais.
Non, mais moi, c'est un joueur effectivement que j'apprécie. C'est un joueur de 3-5-2, comme on dit. Quand on écoute quand même son pédigré, est quand même passé par des top clubs. Quand on fait Udinese, ensuite la Juve et l'Inter.
Avec toujours du temps de jeu en plus.
Oui, enfin, ça veut dire que c'est pas anodin. Ces clubs-là, ils recrutent pas comme ça à la louche. Je me demande s'il a pas fait un passage par la Turquie, il a pas failli aller à Galatasaray à un moment donné. Il était en tout cas en contact très
avançant. Il a fait que l'Italie.
Ouais, mais il avait le grand club turc qu'il voulait absolument. Après, dans cette équipe ghanéenne, peut-être qu'il y a quelque chose qui, moi, m'excite un peu, entre guillemets, c'est quand même leur moteur, leur courroie de transmission. On parle beaucoup des frères Ayou. Mais je trouve que quand même l'association, c'est peut-être ce qui se fait parmi de mieux sur le continent africain, c'est ce milieu de terrain à deux où on retrouve l'ami Thomas Partey et surtout un joueur voilà avec une belle patte gauche que moi j'aime beaucoup et qu'on connaît très bien, qui a une référence du football africain, c'est quand même Moubarak Wakasso,
ancien meilleur buteur de la CAN,
qui est quand même un sacré joueur. Ça fait partie des points forts. Ensuite, moi, Patrick peut-être le sait mieux que moi, j'ai pas réellement de jugement sur la défense alignée par le Ghana. Je connais pas du tout le niveau défensif de cette équipe.
Il y a John Boy qu'on connaît bien,
John Boy, c'est un joueur assez dur. Donc j'ai quand même des interrogations et de toute façon elles vont être levées avec ce match au Bénin.
D'ici une vingtaine de minutes, les équipes rentreront sur la pelouse d'Ismaïlia où nous rejoindrons nos envoyés spéciaux et aussi nos moyens techniques, notamment avec Thibaut Baduel. Pour l'instant, on continue sur Facebook, on continue dans votre poste radio et on va parler de la Coupe du Monde féminine.
La Coupe du Monde féminine de la FIFA, France 2019.
Oui, ce ballon qui passe au milieu de tout le monde. Bartoli était là, Giacinti aussi. Et le but de Giacinti. Elle avait alerté plusieurs fois cette équipe chinoise. Cette fois-ci, la sanction est tombée. La meilleure buteuse du championnat italien a donc inscrit le premier but de cette partie. La frappe de l'ange Galli. Oh, c'est bien tiré. Elle a surpris tout le monde. Oh, Agali, elle qui est entrée en jeu en première période. C'est son troisième but dans cette Coupe du Monde après son doublé face à la Jamaïque. Évidemment, félicité par l'ensemble des Azzurri.
Bravo les Ragazze, nous a dit Matteo hein, tout à l'heure. Tout heureux, car les Italiennes sont en quart de finale. Après leur victoire sur la Chine par 2-0. Des buts inscrits, vous l'avez sans doute entendu, donc par Valentina Giacinti et Aurora Galli. C'est la sœur de Karine, peut-être
Entre Valentina et Galli, on a des consultants RFI qui jouent au foot sous des fausses identités, vous pensez, Yannick ?
Nos amis. Alors, une victoire qui a semblé logique. Hein. Les Italiennes ont été à la fois très réalistes et un peu aussi osées, on va dire, sur le terrain. C'était pas que du catenaccio, c'est ce qu'avait dit leur sélectionneur avant. Alors que les Chinoises étaient plutôt scolaires, Patrick.
Toujours le problème souvent des équipes asiatiques, il y a une vraie discipline collective, il y a un vrai dévouement et tout ça, mais souvent elles ont du mal à faire dans le dépassement de fonction, elles ont du mal à faire plus que ce qu'on leur demande au départ, et ça fait des équipes finalement un peu stéréotypées. On le voit aussi chez les garçons d'ailleurs, quand on regarde le Japon par exemple. Donc ça manque un peu de prise d'initiative. L'Italie pour moi au-dessus, meilleure dans le jeu, plus d'intensité aussi physiquement, et une victoire logique, et pas dans l'ADN classique du foot italien masculin, plutôt une équipe assez joueuse, enfin un match plutôt d'un bon niveau, mais quand même moins d'engagement que par exemple sur France-Brésil, où c'était vraiment un vrai combat, quoi.
Ouais. Nabil.
Alors, j'ai quand même aux chiffres et aux lettres, je dirais pas mieux.
Pas mieux. En tout cas, les Italiens, Matteo nous le racontait tout à l'heure, hein, sont tout d'un coup devenus supporters de cette équipe féminine. Oui, à tel point qu'il y a eu plus de 7 millions de spectateurs, c'est-à-dire le double entre le début et la fin de la compétition. Ouais. Donc là, pour le quart de finale, alors en plus, le quart de finale promet d'être spectaculaire. Ouais. Pour l'instant, on ne sait pas encore qui seront les adversaires, mais il y a de grandes chances que ce soit les filles des Pays-Bas mènent actuellement en fin de première mi-temps, 36e minute, sur le score de 1-0, face à une équipe asiatique, face au Japon.
Attention aux Pays-Bas, parce qu'on n'en parle pas beaucoup dans cette compétition.
Si,
tout à l'heure, j'étais avec l'ancien sélectionneur de l'équipe de France, Raymond Domenech, on s'est retrouvé à parler de football féminin, et lui pense que le facteur X, ou la surprise, l'équipe qui peut être surprise de cette compétition, c'est les Pays-Bas.
Ouais. Et les Pays-Bas qui se retrouveraient donc face à l'Italie, on le rappelle, championne d'Europe, hein, ces joueuses des Pays-Bas.
Oui. Exactement. Très bonne équipe, très physique, avec des joueuses capables de marquer de la tête, de mettre des coups, enfin dans le bon sens du terme, enfin une équipe qui peut faire mal à un adversaire.
Exactement. Et cette équipe pourrait aller, pourquoi pas, jusqu'en finale face à des Américaines éventuellement. L'autre qualifié, c'était dans la soirée d'hier, et bien c'est la Suède qui avait battu par 1-0 le Canada. Canada se retrouvera face à l'Allemagne. Et je vous rappelle, de l'autre côté du tableau, on a cette Angleterre-Norvège et puis France-États-Unis qui sera disputé vendredi soir et retransmis en direct sur RFI. Et on continue d'ailleurs avec cette compétition, mais pour évoquer si l'Angleterre s'est qualifiée, c'est parce que l'Angleterre a éliminé les Lions indomptables. Elles ne sont plus en course dans cette Coupe du Monde. Éliminées en 8e donc par les Anglais sur le score de 3-0, un score assez sévère. Mais les Anglaises, on le sait, on le voyait, on a vu surtout leur premier match. C'est une force montante dans le football européen. Et c'était peut-être un peu logique, leur domination ensuite sur cette équipe. Malheureusement, de l'autre côté, et ça fait de plus en plus polémique, eh bien, il y a eu des attitudes sur le terrain, une agressivité de la part des Lyonnes. Il y a eu aussi à un moment, on les a vus en colère, énervés, qui se demandaient si elles revenaient sur le terrain. Bref, ça pourrait les exposer à des sanctions. On va écouter en tout cas la réaction du sélectionneur anglais à l'issue de ce match, Phil Neville. Il était révolté.
Ce match,
des déceptions. On a perdu. Quand on perd un match, on peut qu'être déçu.
Et qu'est-ce qui a été le moment clé du match, à votre avis?
Le moment clé du match, je crois que c'est le coup franc indirect que l'arbitre offre à l'Angleterre. Vous savez, c'est les femmes, à ce moment, elles n'ont pas pu supporter. Et ça a fait le premier but. Je crois que c'est ça qui déstabilise nos joueuses. Et après, le deuxième but, avec nos jeux, vous voyez qu'avec ça, les joueuses ont été déstabilisées.
Est-ce que vous êtes content avec l'esprit de l'équipe aujourd'hui?
Non, moi, je crois que les filles ont donné tout ce qu'elles pouvaient.
Voilà, c'était, excusez-nous, Alain Jumfa qui répondait à l'issue du match, mais avant en fait que la polémique enfle. Donc il a tenté d'expliquer pourquoi elle s'était mise en colère, et c'était à cause de la VAR. Mais écoutons maintenant le sélectionneur des Anglaises, parce que lui était révolté, et on va le voir, le Guardian est aussi très sévère avec les Lyonnes.
I sat through 90 minutes of football there and felt
Pendant ces 90 minutes de football,
J'ai eu honte, honte de l'attitude de nos adversaires. Mais je suis fier de mes joueuses et fier de leur comportement. Je n'avais encore jamais vu ça sur un terrain de football. L'attitude des joueuses du Cameroun est inqualifiable. Si mes joueuses avaient fait cela, je peux vous garantir qu'elles ne pourraient plus porter le maillot de l'Angleterre. Je suis désolé pour l'arbitre. Pour moi, ces décisions étaient correctes.
Voilà pour ce qui est de la réaction anglaise. Alors, je vous dis, au fil des jours, eh bien, la polémique enfle. On en avait parlé avec Salim Boumgali avant-hier, tout de suite, où il disait c'est quand même incroyable, c'est scandaleux. Lui qui couvre beaucoup le foot anglais, où il y a d'autres comportements. Là, le Guardian souligne, eh bien, des crachats, des coups de coude dans le visage et des caprices. Et surtout, eh bien, les instances du football maintenant s'en sont saisies tout cela. La présidente de la commission du football féminin de la Confédération africaine, Isa Johansen, a annoncé l'ouverture d'une enquête. Patrick et Nabil, vous avez vu, j'imagine, ces images. C'était quand même décevant de voir cela à l'écran.
On ne peut pas les féliciter pour ça,
non,
c'est une certitude.
On ne peut pas les féliciter, mais ça s'ajoute quand même à un gros dossier VAR contre les équipes africaines. Rappelons quand même ce qui était arrivé au Nigeria contre l'équipe de France. Rappelons ce qui est arrivé au Nigeria contre l'Allemagne en huitième de finale. Donc, sachant ce contexte-là, quand ça s'est passé dans leur match, elles se sont dit « Ah, ça tombe encore sur l'Afrique ». Et elles sont sorties du match, elles ont disjoncté à cause de ça. Je pense qu'il faut pas isoler ce qui s'est passé et qui est effectivement qui donne pas une bonne image au moment où tout le monde dit le foot féminin c'est plus fair play, il y a pas de mauvais gestes. Bon là, en l'occurrence, c'était pas très joli à voir, mais ça vient pas de nulle part. Ça vient d'un contexte où elles peuvent avoir un sentiment d'injustice.
Ça vient pas de nulle part, Nabil, mais le problème c'est que certaines critiques maintenant disent ce match a donné une très mauvaise image du football féminin africain. Et
enfin,
c'est
bon,
évidemment,
les Anglais, excusez-moi,
c'est l'attaquante anglaise, Tony Dugan.
Les Anglais sont sympas, ils ont le monopole du fair play, effectivement, dans l'histoire du football. Je peux vous dire qu'il y a d'autres exemples où les Anglais, quand ça tournait pas en leur faveur, c'était pas non plus des gentlemen absolus. Alors évidemment, on peut pas féliciter l'attitude des Camerounaises, c'est une réaction épidermique qui n'a pas lieu d'être. J'espère qu'en tout cas, elles présenteront leurs excuses, du moins pour ce qui s'est passé. Ce serait déjà un bon geste de leur part. Après, je rejoins Patrick, je pense qu'il y a quand même, chez certains, pour X raisons, je vais pas faire de la psychologie de comptoir, mais un sentiment d'injustice exacerbé, qui explique peut-être des comportements absolument disproportionnés. Après, je pense qu'il faut aussi savoir siffler la fin de ce genre de situation. Pour l'instant, la Coupe du Monde féminine, il n'y a que des retours positifs. Ça sert à rien de venir remuer, voilà, un petit peu le couteau.
Des punitions.
Au
final, qu'est-ce qu'on va retenir? Moi, ce que je vais retenir, c'est que c'est la première fois que dans une Coupe du Monde féminine, deux équipes africaines arrivent à passer le premier tour. Ça, on ne pourra pas leur enlever. Elles l'ont fait. Certes, en étant meilleure troisième, mais elles l'ont fait. Elles ont montré des qualités. Après, les Lyonnes, leur force, c'était cette abnégation, ce côté
cette
battant.
Cette volonté.
Et là, c'était le mauvais côté de cette qualité. C'est-à-dire, c'était le défaut de cette qualité, c'est qu'elles sont allées un peu trop loin dans le côté combatif. Et là, elles ont pété les plombs, disons-le clairement. Mais on peut pas, c'est des sportives, elles sont sur un terrain, elles sont en plein dans leur match. On peut pas les juger depuis un fauteuil d'une tribune officielle en disant comme ça, sans savoir ce qu'elles ont pu vivre à l'intérieur d'elles-mêmes. Donc il faut pas être trop dur avec elles. On peut très bien faire une enquête, mais dans ce cas-là, on va en faire à peu près à tous les matchs des enquêtes. Voilà, donc je pense que ça a pris une proportion un peu exagérée.
Voilà, c'est ça, je veux dire. Bon,
et okay. La proportion, elle devient presque politique, Nabil, parce qu'on dit que là, ce sont les instances de la CAF, et certains articles disent, bon, et la FIFA n'a pas encore réagi.
La CAF, ils sont marrants, ils réagissent parce que ça fait une polémique dans la presse.
Oui,
s'il n'y avait pas de polémique dans la presse, s'ils sont dans leur rôle, dans ces cas-là, ils recadrent naturellement les Camerounaises, ou ils leur demandent de s'excuser, et puis on se retrouve pas aujourd'hui à avoir une polémique en Mondovision avec des Camerounaises qui se retrouvent au cœur de la tempête. Et encore une fois, moi, je félicite pas du tout les Camerounaises pour leur attitude par rapport aux Anglaises, mais à un moment, bon, il y a des choses bien plus scandaleuses.
Absolument.
Bon, eh bien, de toute façon, j'imagine qu'on suivra ce dossier et souhaitons quand même à ces joueuses qui ont montré tellement hein, de volonté, qu'elles ne soient quand même pas trop punies. Alors que, le Japon vient d'égaliser face aux Pays-Bas. Oui, voilà, la deuxième mi-temps va être très intéressante pour ce qui est de la Coupe du Monde des filles. Mais nous, on referme cette émission de Radio Foot International nocturne. Merci beaucoup, Nabil Djellit et Patrick Juillard, de veiller tous les soirs avec nous. Et surtout, on peut vous voir, vous admirer sur Facebook Live de RFI. Ouais. Merci aussi à Pierre Guérin qui nous a aidés aujourd'hui. Merci à David Fizel qui m'a aidé à préparer cette émission. Laurent Salerno était à la réalisation. Il y avait Swell Kedir et Romain Ferré qui assurait la réalisation de cette émission version image. Et tout de suite, on part du côté d'Ismaëlia où nous attendent Cédric De Oliveira et Frédéric Suto.
En direct de la Coupe d'Afrique des Nations Total, Égypte 2019.
Marie-Amélie Motte.
Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce dernier match de la première journée de la CAN 2019. Le Ghana face au Bénin, coup d'envoi dans 15 minutes. N'oubliez pas que vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux, la page Mondial Sport sur Facebook et le compte RFI Sport sur Instagram. Mais dans l'immédiat, avec moi en studio, Martin Guèze. Bonsoir.
Bonsoir Marie-Amélie Motte, bonsoir à tous.
Et on part tout de suite à Ismaïlia en Égypte, retrouver Cédric De Oliveira. Bonsoir Cédric.
Bonsoir Marie-Amélie, bonsoir Martin et bonsoir Frédéric Suto qui a remonté, mais alors comme une fusée, il a vu nos amis camerounais.
Ah, on a du lourd, on a du lourd dans la boîte.
On a de quoi.
Dites-moi Frédéric, qu'est-ce que vous avez pour moi?
Frédéric Mendy, un Bissau-Guinéen déçu, qui nous dit c'est un peu.
Mais on a du Camerounais content aussi, j'imagine.
Et des Camerounais contents et des attaquants. Et même certains qui ont marqué, paraît-il.
Voilà, on ne vous en dit pas plus. En tout cas, donc, on va parler quand même de ce deuxième match du groupe F. Les deux dernières équipes qui n'ont pas joué. C'est les deux dernières équipes qu'on n'a pas vues encore dans cette CAN 2019. Donc, le Ghana et le Bénin, opposition de style et opposition aussi historique, puisque le Ghana est une équipe habituée à cette CAN. Elle n'a pas fait moins bien en tout cas que les demi-finales depuis 2008. Rendez-vous compte, à chaque fois André Ayou et sa bande qui ont réussi à atteindre les demi-finales. Ils ont même atteint la finale à deux reprises. La dernière fois c'était en 2015, et cette défaite face à la Côte d'Ivoire, cette défaite cruelle lors de la séance de tir au but. Le Ghana qui a aussi remporté 4 fois cette CAN, c'était la dernière fois, c'était en 1982. André Ayou justement qui va nous parler de ces Black Stars et pourquoi pas. En tout cas, il estime que son équipe, même si elle ne fait pas partie des favoris, elle pourrait faire quelque chose en Égypte.
Ça veut dire qu'on est fort, ça veut dire qu'on est constant et que mentalement on est présent. On a une très bonne génération. Ça fait peut-être 10 ans que le Ghana produit toujours de très bons joueurs. On est toujours proche. C'est dur de l'accepter parce qu'il y a plusieurs canaux, je pense, qu'on aurait mérité la gagner, mais c'est le football. Nous, on continue à se battre. Il y a d'autres équipes qu'on dit favorites avant nous. Mais nous, on fait notre petit bonhomme de chemin. On a confiance en nous et on sait où on veut aller.
Voilà, André Ayou, plutôt confiant, le capitaine ghanéen, André Ayou, donc, qui va être le fer de lance, en tout cas, de cette équipe du Ghana, avec Thomas Partey dans l'entrejeu, le joueur de l'Atlético de Madrid. André Ayou qui va affronter le Bénin, une équipe qu'il n'a jamais rencontrée à la CAN. Le Bénin qui, à l'inverse des Ghanéens, est une équipe qui n'a pas beaucoup participé à cette CAN. C'est seulement la quatrième participation. La dernière fois, c'était en 2010. Alors, que connaissent les Ghanéens qui vont partir favoris de ce match face aux écureuils du Bénin? On écoute encore une fois André Ayou.
On va jouer contre cette équipe du Bénin avec beaucoup de qualité. On a énormément de respect pour eux. Ils ont de très bons joueurs. Mounier, Poté, Sessegnon. Ils ont une génération qui est en train d'arriver. Alors voilà, ils ont certains anciens aussi. Ça fait un moment qu'ils sont en sélection. Il faut connaître le football africain pour savoir qu'est-ce qu'ils ont. S'ils sont là, c'est pas par erreur. Le Bénin n'est pas une petite équipe à mes yeux. On va beaucoup les respecter et on va tout faire, nous, pour commencer de la meilleure des manières.
Alors, confiant à André Ayou, mais il se méfie quand même du Bénin, qui a fait une bonne préparation, les écureuils. Alors, je sais pas si vous avez entendu Martin et Amélie, mais dans le son, en tout cas dans son interview, André Ayou, il parle de Cessaignon, mais Cessaignon, il ne jouera pas hein, pour ce match, il est suspendu. Mais voilà, il y a tout de même du beau monde.
Parce qu'il y a quand même Steve Mounier qu'on connaît un petit peu, l'attaquant
bénin. Bien sûr, voilà, effectivement, il y a Steve Mounier, vous l'avez dit, Martin, puisqu'on le connaît, puisqu'il a joué dans le championnat de France, notamment à Montpellier, où il a explosé, c'était il y a deux saisons avant d'aller du côté d'Huddersfield où ça se passe un petit peu moins bien pour Steve Mounier depuis deux saisons. En tout cas, Steve Mounier, c'est l'un des atouts forts de cette équipe du Bénin. Il a même marqué un triplé lors du dernier match de préparation. Steve Mounier pour le Bénin, il est en grande forme. Le Bénin qui a des atouts aussi à faire valoir, même si on vous l'a dit, ils disputent leur quatrième participation seulement lors de quatrième participation à la CAN. Michel Dussuyer, qui est un petit peu l'entraîneur historique de ce Bénin, même si voilà, il a entraîné le Bénin il y a très longtemps, il est parti sous d'autres cieux, il a notamment entraîné la Côte d'Ivoire, et il est revenu il y a deux ans maintenant, Michel Dussuyer. On va l'écouter, lui il croit aussi en son Bénin, ses écureuils, pour pourquoi pas venir perturber le Ghana.
Il faut qu'on y aille avec beaucoup de confiance, mais aussi en étant conscient qu'en face de nous, il y a une grande équipe et qu'il faudra faire un grand match pour obtenir un résultat, mais d'arriver à se libérer, en tout cas. Et je pense que les joueurs sont prêts pour ça. Ils ont juste envie de lâcher les chevaux. Donc il ne faut pas mélanger ça avec de l'excitation, mais garder une forme de lucidité aussi, parce que cette équipe du Ghana serait prompte à nous punir à la moindre faute, parce qu'ils ont des joueurs talentueux et expérimentés quoi, pour exploiter nos erreurs.
Voilà, Michel Dussuyer qui est prudent. Effectivement, le manque d'expérience du Bénin, ce sera l'une des clés de cette rencontre face donc au Ghana.
Ils n'ont jamais gagné un match de CAN, c'est ça, les Béninois?
Effectivement, ils n'ont jamais gagné un match de CAN. Martin, vous êtes parfaitement renseigné. Le Bénin en trois participations n'a toujours pas remporté le moindre match. Ils vont chercher les écureuils à faire un petit peu mieux cette année en 2019. Et puis, on l'a dit tout à l'heure, pour la Guinée-Bissau, malgré sa défaite face au Cameroun, avec cette CAN à 24 équipes, il y a toujours une possibilité d'accrocher une troisième place, même avec trois matchs nuls, même avec
surtout
une petite victoire.
Surtout, ils arrivent lancés, non? Les écureuils, ils ont fait une belle collecte, ils ont fait une belle préparation, non?
Oui, une belle préparation. On a parlé tout à l'heure du triplé de Steve Mounier, l'ancien Montpelliérain. C'était une des satisfactions lors de cette préparation. Le Bénin qui a aussi d'autres joueurs. On en parlait. Hein. Il y avait donc Cessaignon. Il y a aussi Michael Poté. Il y a Jordan Adeoti. C'est des joueurs qu'on connaît bien dans le championnat de France. Il y a une bonne génération, en tout cas du côté des écureuils. Je me tourne vers Frédéric Suto. Ce Bénin, il a l'opportunité, en tout cas, et pourquoi pas, de faire quelque chose.
Oui, dans ce groupe assez homogène, hein, finalement, on a vu les Bissau-Guinéens tenir tête au Cameroun pendant plus d'une heure de jeu, céder sur la fin, mais Cameroun, Guinée-Bissau, Bénin, Ghana, c'est un groupe assez équilibré. Les écureuils, ils y ont pris goût hein, à cette Coupe d'Afrique des Nations. On le disait, certes, ils attendent toujours la première victoire. Mais avec Michel Dussuyer à leur tête, c'est un coach expérimenté. Des sélections, il en a dirigé hein, un grand nombre. Et l'occasion est là ce soir à Ismaïlia, alors que les deux équipes s'apprêtent justement à faire leur entrée sur le terrain, pour essayer de bousculer cette équipe du Ghana, assez décevante. Ça fait quand même 10-15 ans que les Ghanéens, ils ne gagnent plus la CAN, vous l'avez dit, depuis 1982. Il y a eu des finales, il y a eu des générations dorées, hein, Mais c'est l'équipe du Ghana qui a eu une préparation
bien
difficile.
Sûr, en dehors de la CAN, on se posait des questions avec Marie-Amélie sur l'état de forme du Ghana.
Ouais, on se souvient qu'ils n'avaient pas participé au dernier mondial en Russie. Ils ont eu aussi beaucoup de mal en éliminatoire.
Effectivement, ouais. On a le sentiment qu'il y a un creux générationnel pour les Ghanéens qui sont un petit peu arrivés en fin de course. Il y a eu une belle génération avec Appia, avec Michael Essien, qui a été un petit peu relayé par l'arrivée d'André Ayou notamment. Et c'est vrai que depuis quelques années, depuis peut-être cette finale de la CAN 2015, ils sont un petit peu rentrés, même s'ils sont toujours, font toujours partie.
Il y avait eu l'épopée, je vous coupe Cédric, à la Coupe du Monde 2010. En Afrique du Sud, 2010. À une barre transversale de la demi-finale.
Une main de Luis Suarez.
Justement, messieurs, je voulais vous parler de Samoa Gyan, capitaine déchu. Il n'est pas titulaire ce soir. Quel est son statut dans l'équipe maintenant?
Alors c'est un petit peu particulier, Marie-Amélie, cette histoire de Samoa Gyan, alors que justement, on va entendre l'hymne du Ghana. Alors je vais essayer de pas parler trop fort, mais je vais vous expliquer ce qui s'est passé pour Samoa Gyan. Il a appris en fait que Kwesi Appiah, le sélectionneur, voulait donner le brassard de capitaine à André Ayew. Et ben quand il a appris ça, il a dit moi je ne vais pas à la CAN dans le statut de joueur classique, je veux garder mon capitanat. Il a annoncé sa retraite internationale. Résultat, c'est le chef d'État ghanéen lui-même qui a rappelé à Samoa Gyan pour lui intimer de participer à cette CAN.
Et les ordres deviennent très hauts.
Oui, voilà. Et comme l'a dit Samoa Gyan, vous l'imaginez bien, on ne peut pas refuser l'appel du président. Donc Samoa Gyan, il est revenu avec un arrangement un petit peu particulier. C'est-à-dire que Samoa Gyan, il est capitaine d'honneur de cette sélection. Alors, c'est pas vraiment ce que ça veut dire, c'est sans doute un rôle honorifique, mais effectivement il n'est pas sur la pelouse du stade d'Ismaïlia ce soir, au contraire d'André Ayew, donc qui est le vrai capitaine maintenant de cette formation des Black Stars. Frédéric, on va peut-être faire justement la sélection ghanéenne, enfin la sélection, le 11 titulaire des Ghanéens.
Oui, le 11 titulaire du Ghana au moment où cette équipe du Ghana s'est présenté devant nous sur la pelouse. Moment très, très solennel, hein, toujours les hymnes qui retentissent et qui soudent une équipe.
Oui,
la composition effectivement de cette équipe du Ghana, avec dans les buts Richard Ofori, défense centrale John Boy, Agbenienou, Kassim qui est là, Thomas Partey et Nagaso Moubarak au milieu de terrain, André Ayew le capitaine. Vous l'avez dit, qui est bel et bien là au milieu de terrain, son frère Jordan en numéro 9 en avant-centre, Thomas Adjekpong du côté droit, et côté gauche, c'est Christian Tsfassam qui est là. Une belle ligne d'attaque pour cette équipe du Ghana qui va essayer de faire aussi bien que le Cameroun qui a battu tout à l'heure la Guinée-Bissau, montrer son statut d'entrée.
Messieurs, merci pour toutes ces informations. On va marquer une toute petite pause ici à Paris et on vous retrouve juste après.
RFI.